partout au Québec. La parole est à vous. Pour participer à l'Effet Normando, 1-866-790-9850 et sur le web.
Faut-il changer les noms de rue au passé douteux? Je vous souhaite la bienvenue au réseau Cogeco. Je pose cette question parce que ce matin dans la presse, un article sur les interrogations de la ville de Québec qui souhaite changer, enfin qui s'interroge, oui, qui se questionne sur la pertinence de conserver le nom rue des Esquimaux. Esquimaux étant un concept, une formule qui fait, comment dire, qui fait énormément débat, non seulement chez les Inuits, mais dans notre société. Et là, pour mettre un peu d'humour sur cette question, je souhaite vous lire un commentaire reçu par texto de Fred. Nous avons bien la légendaire rue de la Branlette à Saint-Jean-Port-Joli. Et à date, il n'est pas question de changer le nom. Vous avez bien entendu, Saint-Jean-Port-Joli a une rue qui s'appelle la rue de la Branlette. Et il semblerait que ça ne fait pas polémique à Saint-Jean-Port-Joli. Mais je trouve ça très drôle. Il y a des municipalités. Moi, je viens d'un village qui s'appelle, je suis née dans un village qui s'appelle Maria. Maria, il n'y a pas tellement de polémique. C'est le nom de les rues, c'est portent le nom d'oiseaux. Alors ça ne pose pas problème. Enfin, pour nous éclairer sur cette question, pourquoi pas un historien? Vous le connaissez peut-être, il s'appelle Gilles Laporte. Il est professeur au Cégep du Vieux-Montréal. Bonjour à vous, M. Laporte.
Bonjour, Mme Normando.
La rue de la Branlette à Saint-Jean-Port-Joli, je ne la connaissais pas, celle-là.
Ah, mais il y a de toutes sortes de noms de lieux. J'ai même des étudiants qui se demandent, moi, je sais qu'il y a une ville qui s'appelle Grand-Mère au Québec. Là, ça se perd, tout ça. Effectivement, dès que la pandémie nous laisse un peu de répit, ben, on repart sur les sujets identitaires. Hein. Quand c'est pas un territoire non cédé, c'est une statue qu'on déboulonne et hop, un nom de rue qui surgit. Ce débat-là, on dirait qu'il est installé à demeure, là.
Mais dites-moi, Gilles, vous avez évidemment l'œil de l'historien. Est-ce qu'on fait davantage dans le politiquement correct? J'ai l'impression que c'est une tendance à laquelle, on est confronté depuis quelques années. Je donnais l'exemple de l'équipe de baseball Indians de Cleveland qui ont changé leur nom. Également les Eskimos d'Edmonton. Pourquoi cette espèce de... Est-ce que c'est dans l'air du temps ou c'est une tendance lourde, selon vous, sur le plan historique? Là, comment la mesurer?
Oh, mais tout le monde est à même de constater que c'est très ancien comme tendance. Là. Une société en remplace une autre, elle remplace ses repères, elle abolit ses symboles. On n'a qu'à penser, par exemple, lorsqu'un pays est envahi par un autre, il abat les statues et change les noms de rue. La tendance à l'heure actuelle est très, très forte, vous avez raison. Elle vient surtout du monde anglo-saxon, des États-Unis. Elle a commencé par Black Lives Matter, elle a débordé le monde des Noirs pour aborder celui des Autochtones. C'est le courant indigéniste. La tendance est très forte. Et je dirais, tout simplement, si vous êtes d'accord, que d'abord et avant tout, parce que la cible est toute désignée, hein. Rappelons que les noms de rue, les statues sont en plein dans notre visage, qu'on ne peut pas passer à côté. Je connais pas personne qui évite la rue Christophe Colomb parce qu'il n'aime pas Christophe Colomb, vous me saisissez.
Oui,
dans des circonstances. Donc, ces cibles-là donnent l'occasion à certains de pointer, de montrer une stigmatisation d'un groupe, d'une société et tout le reste. Et ce débat-là, il est très, très fort à l'actuel. Il est sans précédent, dirions-nous, parce que on sent qu'il y a réparation à apporter sur le passé historique. Mais on peut replacer le contexte. Imaginez si au début des années 1960, au Québec, on avait décidé d'abolir tous les noms de saints et de saintes afin de récuser le passé catholique. On n'y pense même pas ce que ça aurait pu donner. Ben, à l'heure actuelle, on est engagé dans un tel dialogue. Il va falloir vraiment trouver une voie. Sinon, ça aurait cessé. Hein? Dès que la pandémie, encore une fois, se calme, on voit surgir ces enjeux-là. À chaque fois, on fait du cas par cas. Vous me saisissez? Alors là, Cette fois-ci, c'est Esquimaux, mangeur de viande crue. Puis ensuite, ça va être un autre débat à propos d'une équipe sportive. Les mêmes questions, mais sur des objets différents. Tout ça mérite bien sûr une réflexion. Vous avez raison, l'historien va vous dire ce n'est jamais une bonne idée de changer un nom de lieu, d'institution, de statut. Ce n'est jamais une bonne idée parce qu'en règle générale, on fait autant de mécontents qu'on ne satisfait de gens. Le résultat est généralement amer. Vous parliez de Québec. Il y a des gens à Québec qui s'ennuient des noms de lieux comme Sillery, Sainte-Foy, qu'on a abolis pour d'autres raisons, mais qui demeurent que c'est un patrimoine que l'on brade à ce moment-là. Ces noms de lieux, ces institutions ont acquis une notoriété. Ce n'est pas leur apologie qu'on fait. On ne fait pas l'apologie d'un terme infamant pour les Inuits. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on rappelle. Elles deviennent elles-mêmes des traces du passé. La même manière que la statue de Wolfe dans le Vieux-Montréal Montréal ou à Québec, la même manière que la statue de Nelson, même manière à son époque que la rue Amherst, ce sont simplement des traces du passé qui ont une vertu pédagogique, nous rappelant les valeurs du passé, nous rappelant les préjugés aussi du passé, sur lesquels il faut réfléchir, mais sans chercher à les cacher comme des tartuffes, dirais-je.
Ouais. Si vous permettez, Gilles, je vais interpeller nos auditeurs sur cette question ce matin. Est-ce qu'il faut changer, selon vous, les noms de rue au passé douteux? 514-790-9850 ou 1-866-790-9850. Quand le nom de ta rue, c'est la rue des Pinsons, ça pose pas trop de problème. Mais c'est vrai, il y a quand même effectivement la ville de Montréal. Je prends la mairesse actuelle qui est en campagne à Montréal, Valérie Plante. Chaque fois qu'elle fait une conférence de presse, elle prend soin de dire que cette conférence de presse se tient sur des territoires, un territoire non cédé. Mais il y a quand même, quand vous dites dans le fond, sous l'angle historique, ça peut être intéressant. Il faut éviter de changer le nom des rues douteuses ou le nom de parc. Je pense entre autres à tout l'épisode Claude Jutras. Hein? Oui. Le cinéaste, ça avait effectivement créé toute une polémique au Québec. Parc, rue, on a aboli tout ça. Mais est-ce que c'est... En fait, j'essaie de voir les vertus liées au fait d'être confronté à tous les jours à des noms de rues, par exemple, qui suscitent la polémique.
Il faut chercher le consensus. Il faut chercher l'accord de la population. Et lorsque ces noms de lieux-là, ces statues-là ont été érigés, elles reposaient dans leur temps sur un consensus. C'est ce qu'on appelle le tissu social qui est d'accord avec ça. Il y a des moments où il faut les remplacer, mais pas au milieu de la polémique. Prenez le cas patent de John A. McDonald. Est-ce que ce seront finalement des émeutiers qui l'ont décapité et arraché, qui vont décider tout compte fait de nos commémorations? Ce serait vraiment triste ensemble. Il y a une réflexion à tenir sereine, citoyenne, voire démocratique sur qu'est-ce qu'on fait de notre espace public puis les noms qu'on confère. Et il faut pas laisser ça à des lobbies, souvent des agitateurs, parfois violents, le soin de déterminer ce qui a sa place ou non dans l'espace public.
Mais c'est difficile, Gilles, pour des élus de résister à cette pression de la part de groupes de pression, justement, ou de lobby, comme vous les appelez. C'est pas simple, là.
Effectivement. C'est la raison pour laquelle il faut absolument qu'ils se dotent d'un institut indépendant. À l'heure actuelle, c'est les élus qui sont interpellés. Regardez à Montréal, Denis Coderre qui parle de rétablir John McDonald. Ça ne devrait pas être une question résolue au plan électoral et partisan. Ça doit être acheminé vers une véritable commission de toponymie, ou ce qu'on appelle, nous, un véritable comité des commémorations qui voit à comment on attribue les noms de rues ou de places et comment on devrait ensuite peut-être les changer éventuellement selon telle ou telle règle. Un comité indépendant, distinct de la politique, distinct des enjeux et qui ne subit pas justement les pressions de ces groupes, parfois très, très minoritaires, mais qui font beaucoup de bruit et, tiennent les élus en otage.
Effectivement. Il y a un auditeur qui nous écrit sur le texto 98-98-5 « Qu'est-ce qu'on va faire avec l'été des Indiens? » Non, mais c'est vrai parce que ça crée un inconfort dans la population.
Ce terme-là. Je ne veux pas tomber dans la polémique, là, mais moi, comme historien, je dois deux fois plutôt qu'une consulter là, est-ce que je dois utiliser Amérindien ou Autochtone ou Première Nation. Et je vous dis que c'est devenu de la sémantique. Et je dirais à terme, si vous me permettez, que ce débat, là, ce qu'on appellerait le déterminer le sexe des anges, là, ça a fini par nuire ironiquement à la cause que c'est censé dépendre. Prenons l'enjeu des Premières Nations, tandis que les Premières Nations vivent dans la réalité des conditions de vie difficiles, on se bat à propos de tel ou tel terme qui contribue justement à montrer bon, c'est encore eux qui chialent, bon, ils sont pas encore contents. Bien sûr que ces débats-là doivent être tenus, mais considérons que ce n'est pas là l'essentiel. L'essentiel, c'est de s'occuper. Si on a une dette envers le passé, si on a une culpabilité à traîner, réglons-la par des mesures sociales et économiques structurantes et non pas à harceler la population et les élus sur... Écoutez, dans les manuels d'histoire, ça atteint un niveau là, qui frise l'hystérie. Là. Tellement on ne peut pas représenter un Autochtone en train d'affronter un autre Autochtone. Ça n'aide personne. Ça n'aide pas la vérité historique et ça n'aide même pas la cause des Premières Nations à l'heure actuelle qui ont bien d'autres problèmes que de savoir s'ils doivent s'appeler Esquimaux ou Inuits.
Vous avez raison, Gilles. Vous demeurez avec nous. Les impératifs de la radio font en sorte qu'on doit aller à la pause sur les hanches. Je vous rappelle qu'on discute des noms de rues au passé douteux. Moi, je veux revenir après la pause, Gilles, à cette espèce d'espèce d'hystérie collective. Là, on ne sait plus sur quel pied danser. On a l'impression toujours de marcher sur des œufs. Qu'est-ce que vous en pensez? On revient sur ce sujet dans quelques instants.
Au réseau Cogeco, vous écoutez l'effet Normando. votre nouvelle tribune au Québec.
Merci pour ce rappel à l'ordre. Il faut dire l'été indien et non l'été des Indiens. Merci également à Serge sur le courriel qui nous écrit « Les Autochtones sont les grands perdants en éliminant ici des noms qui rappellent l'histoire. » Évidemment, il réfère aux Eskimos, aux Indians, aux Redskins. Il dit « En retirant tous ces noms, on ne peut pas amorcer une conversation avec eux, à savoir qui ils sont, d'où ils viennent, etc. » Dans ce sens-là, Serge rejoint votre propos, Gilles Laporte, historien. Oui. Si vous permettez, Gilles, je vais aller joindre au bout du fil, il y a Dan et Martin qui souhaite s'exprimer sur le sujet. Je vais commencer par Dan. Bonjour.
Bon.
Est-ce que vous m'entendez bien?
Oui, et vous okay. m'entendez bien.
Oui, ça va mieux, effectivement.
Donc, je vais rappeler
Dan, je suis désolée, Dan, mais c'est vraiment inaudible. Désolée. Vous êtes peut-être dans un édifice où c'est plus difficile la communication. Enfin, on verra peut-être pour vous parler à nouveau dans quelques instants. On va aller joindre Martin. Bonjour, Martin.
Bon matin, Mme Normando. Moi, j'ai une question à demander, aux Premières Nations, à demander à tout le monde. T'sais, là, eux, là, quand là, ils font ça, quand, lorsqu'ils disent ici leur demande, là, est-ce qu'ils croyaient vraiment là, que les propriétaires d'équipes sportives, entre autres, là, parce que là, vous avez parlé des noms de rue, mais c'est aussi là, des équipes sportives, là. Les propriétaires d'équipes sportives et les directeurs, quand ils ont songé, eux, à donner un nom à connotation amérindien à leurs équipes, est-ce qu'ils se sont dit, ah, ils ont sûrement fait ça parce que les propriétaires, ils étaient racistes? Fait qu'eux autres, les propriétaires vont demander à leurs 20 000 partisans, ou encore au football, à leurs 75 000 partisans, de venir encourager une équipe pour laquelle que l'on doit détester, qu'on doit détester le nom. Vous voyez bien que c'est raisonné par la stupidité. Alors, c'était pas par mépris ou encore parce qu'on détestait des Amérindiens. C'était plutôt, justement, parce qu'ils les aimaient par admiration, une certaine admiration. Mais là, visiblement, ce qu'ils veulent faire, c'est juste de l'appropriation culturelle. Et puis, oui. En agissant ainsi, puis plus qu'il y aura les tribunaux et les juges qui seront à leur faveur, bien, ça va leur donner de la force, de la force à leur mouvement, puis de la force à leur nation. Mais je pense que ça va jouer contre eux, parce qu'à un moment donné, à force de crier au loup, les gens vont se tanner, puis il va y avoir des cas beaucoup plus graves que ça. Puis à un moment donné, bien, écoutez, on va fermer les yeux ou les oreilles, puis on va dire, écoutez, arrangez-vous tout ça.
Merci beaucoup, Martin. Réaction, c'est un propos fort intéressant, oui. Gilles Laporte, on le rappelle, historien.
C'est cette oui. fameuse question de l'appropriation culturelle, effectivement, qui fait en sorte que désormais, les Premières Nations, comme les Noirs aux États-Unis, comme d'autres communautés, n'acceptent plus qu'on parle en leur nom, n'acceptent plus qu'on utilise leur représentation à des fins, à des fins autres. Dans les circonstances, ça n'a plus de fin et ça finit par enfermer les communautés les unes par rapport aux autres. Ça finit par les isoler. Je dirais pas jusqu'à ce qu'il y ait ce qu'on appelle en bon français un backlash, une réaction, mais en attendant, ça crée des murs, ça crée des frontières entre les communautés, ça ne peut pas aider l'harmonie sociale.
Merci beaucoup. Avant de vous quitter, Gilles, je veux vous lire, partager avec vous un message de François sur le courriel. Il réfère au général Robert Monckton. Monckton est responsable de la déportation de milliers d'Acadiens en 1755, pourtant au Brunswick. On a nommé une université au nom de Monckton et une ville au nom de Monckton. Quand même, hein?
Et combien d'autres cas? On dirait que les cas sont inégaux dans leur traitement, dans leur évaluation. Ça ne saurait cesser, ce débat-là. On le commence, on sortira de la pandémie et on se reparlera de toponymie, vous et moi.
Excellent. Bien, ça m'a fait grand plaisir de vous parler, Gilles Laporte, historien, on le rappelle, et professeur au Cégep du Vieux-Montréal. Dites-moi un commentaire très, très rapide, quelques secondes. Vos étudiants et jeunes étudiants réagissent comment à tout ce mouvement?
Très dubitatifs. Ça vient de la formation qu'ils ont reçue. Ils ont eu des cours d'éthique et de culture religieuse, une école du relativisme et de la tolérance, de l'ouverture à l'autre. Moi-même, je suis en train un peu de perdre de vue qu'est-ce qu'ils sont devenus. Ils sont extrêmement sensibles au regard de l'autre. C'est très bien. Intéressant. Ça donne des individus qui ne prennent plus position, sont devenus très observateurs. Ils attendent de leurs aînés, de vous et moi, ils attendent de leurs aînés des réponses claires à ces questions.
Merci. Merci beaucoup, Gilles Laporte. Désolée, on se repart. Merci.